Nickel.
Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Diwa, bienvenue dans CCC. C'est ça la classe numéro 48 déjà, bientôt la 50e, faudra faire quelque chose un peu d'extraordinaire.
Une spéciale, ouais.
Voilà,
on fait une petite fête
dans le studio.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que CCC, c'est plusieurs jeunes du lycée du Diwa, mais pas que. Aujourd'hui on a un invité de Sciences
de
Po Paris, ouais, Thiedel, qui était déjà là l'an passé. Et on parle de sujets d'actualité, que ce soit de la politique ou des trucs plus sociétaux, enfin, peu importe si ça nous intéresse. On va faire un petit tour de table. Manon, je te laisse commencer, présente-toi, ta classe, ton âge.
Oui, alors bonsoir, moi c'est Manon, j'ai 18 ans et je suis en terminale économique et sociale au lycée du Diwa. Voilà.
Marie. Bonjour, Marius Fontaine, terminale économique et sociale, pareil.
Eh ben salut, moi c'est Jérémy, dit le druide, toujours la même classe et bientôt 2 ans à CCC.
Le druide par sa barbe, à la radio ils ne le sauront pas mais il faut quand même préciser. Alyosha,
moi c'est Alyosha Augereau, j'ai 17 ans, je suis en terminale L.
Atek Antoine, terminale littéraire au lycée du Diwa, alors je suis très heureux de faire ma première avec vous.
Oui,
ce soir.
Oui c'est vrai, on félicite Antoine de nous avoir rejoint. Et je te laisse te présenter.
Ben voilà, moi c'est Thiedel, je suis un revenant, voilà. C'est-à-dire que j'étais au lycée du Diwa, après je suis parti, et maintenant ben, je suis toujours parti, mais je suis là ce soir.
Alors on va aborder plusieurs sujets, normalement Alexandre s'occupe de ça. On salue Alexandre qui est au téléphone, il ne peut pas le faire,
bonjour,
je vais faire à sa place.
Bonjour à tous, et puis terminal scientifique au lycée du Diwa. Je ne sais pas si c'est ce qu'il fallait dire.
Oui, mais si, c'est ça.
Ok, parfait.
Alors, notre premier sujet, ça va concerner Donald Trump, le président des États-Unis, tout le monde le sait, qui a, on va citer ses mots, injonctivé l'Afrique lors d'une réunion à la Maison Blanche avec
les parlementaires.
Voilà, des parlementaires, donc qu'ils soient de son côté ou dans l'opposition.
Républicains ou démocrates, oui.
Alors, il a dit pourquoi toutes ces personnes issues de pays de merde viennent-elles ici, en faisant référence aux pays africains.
Et donc, Haïti.
Et Haïti, voilà, aussi en possible. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce serait peut-être un coup de com' ou tout simplement maladroit? Mais ce serait bizarre d'être maladroit à ce point. Qui veut commencer?
D'ailleurs, pour commencer, il n'a toujours pas nié les faits.
Ouais.
Donc, il reconnaît ses propos et ses propos
ouais,
choquants.
Oui, donc voilà, donc on ne peut pas vraiment penser que ce soit maladroit. Qui veut parler? Personne ne veut parler sur ce sujet.
Non,
vas-y.
Si vous voulez, moi, je pense que c'est complètement un coup de communication. Bon, après... comment dire, c'est 100% raciste ce qu'il a dit, je trouve. Et il partage même pas les valeurs qui sont inscrites dans sa constitution. Et donc, c'est inadmissible de la part d'un chef d'État d'avoir des propos comme ça.
Ouais, tu penses que ça remet en cause un peu la stature présidentielle et,
le
modèle américain en général, parce que il est quand même à sa tête, ça peut être grave. Alyosha.
Je pense exactement comme Manon, c'est-à-dire que c'est sans doute un coup de pub ou quelque chose comme ça, mais s'il veut laisser dans l'histoire la trace d'un président raciste et violent, pourquoi pas, c'est son choix, mais bon, qu'il le dise franchement.
Oui, c'est vrai, mais après ça peut plaire à son électorat.
C'est pas faux que s'il a été élu, c'est qu'il y a sans doute des raisons, mais bon.
Oui, c'est ça. Marius.
Après, cette phrase est issue d'une conversation privée.
Privée, pas vraiment, vu que c'était quand même des parlementaires.
Ça reste une personnalité publique.
Ça reste une personnalité publique, mais dans un cadre privé. Je pense que il a dû dire des choses bien pires. Et c'est pas pour relativiser ce qu'il a dit. Évidemment, c'est impardonnable, c'est raciste, c'est horrible, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Mais je pense que l'action de mettre une conversation privée sur le thème public entre guillemets. C'est un peu un excès.
En fait, si ça avait été vraiment une discussion privée, j'aurais été d'accord avec toi, mais en sachant, lui, il le savait qu'il y avait des parlementaires, même de l'opposition, donc ce qu'il disait, il n'était pas libre de ce qu'il disait. Il savait très bien que ça pouvait fuiter, donc c'est pas vraiment du domaine privé maintenant. Donc c'est un peu. En tout cas, il est fier de ce qu'il dit, hein, il se soutient encore, et il soutient qu'il n'est pas raciste et que ce qu'il a dit n'était pas raciste. Donc c'est du public, clairement. Après, moi, je pense que ça peut-être être pour montrer sa politique future avec l'Afrique, notamment. Peut-être qu'il voudrait imposer ses idées. Il le fait par des phrases courtes, comme ça, de la provocation, pour pouvoir montrer clairement ce qu'il en pense et que ce soit bien compris, je pense, par l'ensemble de la population. Et là, c'est quand même assez clair comme message. Tiedel, tu voulais parler?
Oui, ben, enfin, évidemment, je suis d'accord avec le fait que ben, c'est absolument inadmissible. Mais moi, je me dis que quelque part, peut-être qu'on en parle trop et que finalement, c'est ce qu'il cherche. Parce que si on regarde bien, tous les deux jours, il dit une nouvelle connerie, en gros. La semaine dernière, c'était « je suis un génie ». Bon, voilà. Après, cette semaine, c'est effectivement donc, les pays africains, des pays de merde, etc. Et Haïti aussi, d'ailleurs. La semaine prochaine sera autre chose. Donc, ça fait que tous les 3-4 jours, il nous sort un truc comme ça. Et du coup, on parle que de ça pendant 3-4 jours. Et on ne parle pas du reste. Et on ne parle pas, de ce que propose l'opposition. On ne parle pas de ce qu'il fait lui. Parce que même s'il ne fait pas grand-chose, il fait aussi des choses qui sont peut-être d'ailleurs dommageables. Mais on n'en parle pas. Et donc, le problème, c'est qu'à force de se focaliser là-dessus... quelque part, ça fait un peu sa force parce que vu que sa faiblesse, en gros, c'est les arguments et c'est appliquer une vraie politique, on se préoccupe pas de ses faiblesses et on se préoccupe que des conneries qu'il raconte. Et voilà.
Pour le défendre, il a quand même fait passer une loi importante qui était la baisse de la fiscalité
pour les plus riches. Oui, la baisse des impôts. Oui. Ouais. Oui, pour les plus riches et pour les autres, bon, c'est resté à peu près pareil. Mais c'est vrai qu'il n'a pas augmenté les impôts. Il faut voir ce qu'il va faire dans le futur. C'est vrai que ça a été sa grosse réforme de l'année. Il en est très fier. C'est peut-être pour ça qu'il se qualifie de génie. Bah,
c'est la seule chose qu'il a réussi à faire.
Voilà, c'est la seule chose qu'il a réussi à faire.
Et ça fait un an qu'il y est.
Et ça fait un an qu'il y est. Donc, bon, c'est pas non plus... plus fifou, mais bon, après, il vaut peut-être mieux qu'il raconte de ce genre de choses tous les deux jours plutôt que de devoir parler des vrais problèmes.
D'ailleurs, il y a 3 jours, il s'est qualifié de ne pas être raciste. Je sais pas si tu as entendu.
Oui, il a dit je suis la personne la moins raciste de la Terre. Oui,
vous avez interviewé, oui.
C'est clairement de la provocation, on ne peut pas voir ça autrement.
Pour en parler,
ce type de propos,
c'est forcément c'est après.
C'est un type qui est.
Au niveau santé, ils ont dit qu'il était en bonne santé après. Bah, psychologiquement,
de santé physique.
En parlant de ça, voilà, dans les sondages, il a baissé dans les intentions des Américains dans tout ce qui est domaine personnel, donc l'intelligence, l'équilibre
mental,
psychologique et ça. Maintenant, plus de la majorité des Américains pensent qu'il est déséquilibré, en tout cas, et qu'il n'est pas intelligent, alors que c'était l'inverse.
Donc il s'en rend compte
lorsqu'il
moment.
A été élu. C'est vrai. C'est vrai qu'il serait peut-être
mieux
temps,
tard que jamais, mais après. Ils l'ont élu quand même, donc ils ont élu aussi, je parlais un peu vulgairement, une grande gueule. Donc ils savaient qu'il allait respecter aucun code des anciens présidents. C'est pour ceux qui le défendent, c'est ce qui se dit.
En plus, c'est pas une nouvelle, quoi. C'est pas comme si c'était nouveau qu'ils disent, parce que bon.
Durant la période électorale, c'était déjà, ça avait déjà fuité certaines anciennes histoires, donc scandale.
Bah, ils voulaient bousculer un peu les codes et.
C'est
clairement ce qu'il fait. Donc, il réussit à merveille.
Et au niveau des États-Unis, est-ce que ça fait autant scandale qu'en Europe?
Je pense. Après, on n'a pas d'Américains par ici. Mais clairement, enfin, à mon avis, les démocrates aux États-Unis doivent être outrés par ça. Ils doivent essayer de pointer du doigt ceux qui ont voté. Enfin, pas vraiment pointer du doigt, mais leur faire comprendre que c'était un mauvais choix que de voter pour Donald Trump.
Ouais.
Voilà. Bah après, c'est quand même un homme qui est censé montrer l'exemple. Et au lieu d'apaiser les tensions, il remue encore plus le couteau dans la plaie. Et
oui, surtout qu'il est chef d'une des nations les plus puissantes du monde. Donc bon, il faut faire attention quand même.
Il attise la haine au lieu de l'apaiser.
Oui, ses priorités à lui, c'est de renforcer le pouvoir du peuple américain et de s'isoler au maximum sur la scène internationale. Et il utilise le non politiquement correct, enfin politiquement incorrect, comme il dit tout souvent. Et il y a un livre choc qui est sorti il y a pas longtemps, Fire
c'est
and
vrai,
Fury,
parlé, ouais.
C'est vrai.
D'un ancien conseiller. Et il paraîtrait dans un passage du livre où il explique que en fait c'était pas prévu qu'il arrive à la Maison Blanche. Au début c'était juste comme ça, j'ai tout ce que je veux, j'ai tout l'argent, du coup maintenant je vais me présenter. Et au final, il s'est fait élire.
C'est incroyable, il a dû être surpris. Hein.
Élu pour une blague, c'est sympa.
Et d'ailleurs, il n'y croyait pas, puisque le livre révèle aussi que lui-même n'a pas mis un seul sou dans sa campagne. Donc, c'est-à-dire qu'il avait des milliards à disposition, il n'a pas investi dans sa campagne. C'est-à-dire qu'il a fait un prêt, au Parti Républicain, mais du coup, il a été vite remboursé. Donc, lui-même ne croyait pas trop, il n'avait pas envie de prendre des risques financiers avec sa propre campagne. Et quand on regarde, par contre tous les accessoires qu'il vendait dans la tour Trump, dans les hôtels Trump, etc. Par contre, sur sa campagne, donc les trucs Make America Great Again, etc. Ça lui revenait directement dans la poche. Donc il a aussi fait une bonne opération, je pense, marketing.
Et ensuite sa loi de défiscalisation qui lui a profité au maximum.
Ah oui, à lui.
Oui.
À lui,
après,
à sa famille.
De là à dire qu'il gouverne pour lui-même.
C'est ah non, j'ai pas dit ça.
Non, mais je pense qu'il est pas. De toute façon, il gouverne pour pas grand monde.
Oui,
il
n'est
pas très compétent. De toute façon.
Après, il est quand même bien entouré. Enfin, à ce niveau-là, un président comme ça est bien entouré. Et il sait qu'il peut potentiellement se faire.
Justement,
ils l'ont lâché, ses bras droits, tout cela.
Oui, c'est vrai.
Ils l'ont lâché.
Non, une bonne partie du Parti Républicain le soutient toujours. C'est oui, surtout grâce aux valeurs qu'il garde toujours en lui.
Oui. Il insulte même ses collaborateurs de lèche-botte et de choses comme ça. J'avais lu, c'est justement dans ce livre, des extraits. Et ça n'incite pas vraiment les gens à collaborer avec lui. Enfin, je trouve ça quand même assez étrange.
Après, tant qu'il fait que parler et qu'il n'agit pas, comme l'a montré c'est son inaction, il a fait qu'une seule loi en un an. Donc, tant qu'il fait que parler, au final... c'est peut-être un moindre mal.
Moindre mal, oui, mais
parce que s'il agissait vraiment et qu'il faisait comme ce qu'il disait, arrêter de les subventions pour l'Iran, tous ces projets...
La Palestine.
La Palestine. Tous ces projets-là, s'il les mettait vraiment en action, au lieu que ce soit que du vent, je pense que ce serait plus dangereux. Donc, je pense qu'on devrait se contenter d'un beau parleur plutôt que.
Oui, c'est vrai. Mais après, il revient souvent sur ses décisions, comme par exemple le climat, la COP21. Il a dit que les États-Unis pouvaient potentiellement revenir.
Qu'ils ne s'interdisaient pas
de revenir, mais qu'il affirmait que la COP21, les accords de Paris n'étaient pas de bons accords.
Et sur la politique avec l'Iran, il n'a pas non plus fait tout ce qu'il disait. Il a continué la politique d'Obama. Pour l'instant, il a les accords qu'il avait commencé à faire, l'ancien président, il les a pas...
Il a dit, ce week-end, je crois, il a annoncé qu'il suspendait les sanctions pour la dernière fois. Les sanctions économiques envers l'Iran.
Okay. Mais il les suspend quand même, donc du coup, c'est un peu... C'est, voilà.
Bon, de toute façon, je pense que c'est pas la dernière fois qu'on va entendre parler de Donald Trump. Son mandat est loin d'être terminé, et il va encore faire parler de lui, à mon avis. Donc je pense qu'on va passer au second sujet. Sur les médias, Alexandre, allez. Est-ce que tu peux nous lancer? Est-ce que tu te sens?
Je me sens. c'est pas forcément le sujet le plus d'actualité, mais c'est un sujet qui, depuis quand même quelques mois, fait parler de lui. C'est la neutralité des médias, ses dirigeants, et puis tout ce qui découle des médias, la télé-réalité. Est-ce que ça manque de neutralité aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui est dirigé que par certains groupes et qui empêche l'indépendance et de pouvoir s'exprimer librement parfois? Est-ce que c'est du bourrage de crâne de télé-réalité si ça intéresse de partir plus?
Mais aussi, ce qui est important de savoir, ceux qui dénoncent ça prennent les médias en fait comme des faiseurs de vérité. Enfin, ils disent que la population prenne vraiment les médias pour des faiseurs de vérité. Et donc ça peut être vraiment grave si une telle population peut se faire embrigader. On n'en est quand même pas au régime totalitaire du XXe siècle, mais ça peut vraiment influencer la population. C'est notamment le FN qui accuse souvent les médias
oligarchie médiatique.
Voilà, exactement, l'oligarchie médiatique. Alors est-ce que vous pensez que c'est le cas? Est-ce que vous pensez que simplement c'est des complotistes? Marius.
Moi, je pense que Marine Le Pen, pendant les présidentielles, avait tenu ce propos d'oligarchie médiatique. Et je pense que c'est vraiment très surfait. Parce que oui, les principales chaînes appartiennent à des hommes. Mais,
90% des médias.
Comment ?
90% des médias.
Oui, 90% des médias. Mais,
patron, voilà, on peut
aussi. Oui, cette oligarchie. Mais très franchement, c'est des hommes... qui ont des parts d'entreprise, qui elles-mêmes ont des parts de journaux. Et puis même, ça m'étonnerait que les grands patrons viennent dans les studios pour dire non, écrivez ça.
Ça peut être peut-être c'est être en dessous, dans l'échelle, suivre les ordres d'en haut.
Pour faire plaisir aux grands patrons, mais je pense que ce que veulent les grands patrons, c'est faire de l'argent, C'est pour ça qu'ils ont acheté des entreprises. Aujourd'hui, les médias font quand même énormément d'argent avec les publicités, avec les journaux. C'est quand même quelque chose d'énorme. Et je pense qu'il y en a très très peu qui s'intéressent vraiment à l'information. Beaucoup s'intéressent plus à l'argent qu'ils vont avoir. Donc je pense pas qu'il y ait une grosse emprise des oligarques.
Le problème, c'est qu'en fait, on a vu souvent que les hommes politiques étaient mêlés à ces hommes d'affaires qui, justement, détenaient les médias. Et c'est à ce moment-là, c'est ce mélange qu'on pointe du doigt souvent et qui serait potentiellement, qui ferait des médias quelque chose de partiel.
Oui, partiel. Par exemple, le patron du Figaro, qui est Serge Dassault.
Serge Dassault.
Ouais, il contrôle à 100% son entreprise parce que c'est la sienne, qui elle-même contrôle 100% du Figaro. Donc oui, sachant que Dassault était très proche de Nicolas Sarkozy pendant la présidentielle de 2007, c'est sûr qu'il y a eu une énorme influence. Mais bon, de là à dire qu'il contrôlait vraiment le Figaro, les unes, je pense pas.
Adieu,
bah d'ailleurs, quand tu parles de la présidentielle de 2007, il faut remarquer d'ailleurs que TF1 était d'ailleurs très derrière Nicolas Sarkozy aussi. Parce qu'il faisait beaucoup parler de lui, il le présentait toujours au JT de 20h ou des trucs comme ça.
Après, souvent, les médias sont accusés d'être destructeurs de certaines personnalités. On parle souvent de Hollande bashing, par exemple, sous son mandat. Et c'est vrai qu'on peut le constater, les médias ont vraiment eu un rôle face à la destruction du personnage. Tiedel.
Par rapport, par exemple, au Hollande bashing, si tu veux, je ne sais pas dans quel sens ça arrive. Est-ce que c'est d'abord les médias qui ont tout fait pour détruire Hollande, ou alors est-ce que c'est Hollande qui a fait des choses qui ont été amplifiées, qui n'étaient pas médiatiquement rentables, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que Hollande, ce n'était pas un type qui était médiatiquement... il donnait un petit peu le bâton pour se faire battre, même si quand il faisait des choses bien, il ne communiquait pas très bien dessus.
Oui,
donc je pense que c'est un problème aussi de savoir-faire en matière de communication qui fait que vous pouvez vous faire démolir ou vous pouvez en profiter. Et je pense que la plupart en profitent. Mais pour revenir à la question de l'objectivité, moi je ne crois pas en l'objectivité des journalistes. Et pour moi, ce n'est pas grave. Parce que je veux dire, tout le monde a ses opinions. Et on ne peut pas demander à un journaliste de faire le vide dans sa tête et de dire « je suis aujourd'hui ni de gauche, ni de droite, ni de truc, ni de machin
oui. ».
Évidemment, Marine Le Pen qui dit « oui, les journalistes, ils sont tous pour Macron », je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que je pense que la plupart n'ont pas voté pour elle au deuxième tour de l'élection présidentielle. En même temps, la plupart des Français n'ont pas voté pour elle non plus. Donc bon, après, voilà. Donc, si vous voulez, je pense que ce n'est pas tant le problème de savoir ce que pensent vraiment les journalistes plutôt que de savoir... le traitement de l'information, ce qu'ils choisissent de mettre en avant, et je pense que le vrai problème c'est ça, c'est entre guillemets l'agenda médiatique, parce qu'ils mettent en avant des sujets qui à mon avis sont pas si importants que ça des fois, on passe un temps fou à parler de
du burkini,
oui mais voilà des choses comme ça, voilà, et donc c'est à mon avis c'est plus ça le problème que l'objectivité ou pas des journalistes, parce que les journalistes sont professionnels et on peut pas dire qu'ils soient plus en général désagréables avec l'un ou avec l'autre, enfin en général ou ils sont désagréables avec tout le monde ou ils sont gentils avec tout le monde.
Personnellement, en tout cas c'est un ressenti personnel, la dernière semaine avant le premier tour des élections 2017, j'ai vraiment vu sur Jean-Luc Mélenchon un Mélenchon bashing. Je t'assure, à chaque fois que j'allumais la télévision, il y avait un reportage qui le décrédibilisait, comme par exemple C'est dans l'air sur France 5, une chaîne publique, une émission qui parle de Jean-Luc Mélenchon avec 5 invités de droite.
Mais si tu veux, après, quelque part, il en a aussi profité. Parce que, comme on dit...
Ça fait un plafond de verre, quand même.
Non, comme on dit, bad buzz is still buzz. Donc, non, mais voilà, c'était pas très bien dit, mais n'empêche que ça veut dire qu'il a été... C'est comme quand je parlais de Donald Trump et ses conneries tout à l'heure. Quand t'es tout le temps à la télé, même si c'est en mal... Quelque part, tu es maître de l'agenda médiatique parce qu'on parle que de toi. Et du coup, les autres, on ne parle pas de leur proposition.
Oui, d'accord, mais c'est quand même pas normal de parler toujours négatif d'une personne.
Après, tu sais, Macron, ils n'en parlent pas très positivement non plus. Quand j'écoute la radio, ils ne sont, sont pas très...
Et depuis qu'il est élu.
Même pendant la campagne, ils n'étaient pas tous... on a dit, oui, ils sont tous pour Macron. Moi, je n'ai pas ressenti ça.
Ils ont beaucoup critiqué son programme.
Oui, voilà, on a dit, il n'a pas de programme. On avait François Langlais qui a été accusé par Jean-Luc Mélenchon d'être un suppôt du libéralisme. féminisme, et ben Macron et Fillon, il avait en gros fait comprendre que Macron avait pas de programme. Enfin bon, c'était vraiment alors qu'on voit bien que c'est pas le cas. Donc je pense pas qu'il soit plus désagréable avec quelqu'un d'autre, mais comme je dis, le problème, c'est pour moi, c'est surtout le problème de l'agenda et des problèmes qu'ils mettent en avant, qui à mon avis sont pas forcément les bons.
D'accord, bah, parfait, merci.
En général sur les JT, on parle très peu de faits concrets et on voit très souvent le prix des tongs qui a augmenté,
Les JT TF1, les derniers sujets sont pas
simples. Pire vraiment, c'est les chaînes d'information continue.
Les gens qui partent en vacances, voilà.
Le pire, c'est les chaînes d'information continue, type BFM, ITD.
Oui. C'est vrai que c'est
après, c'est un ressenti personnel, mais j'ai vraiment l'impression que les JT, même toutes les émissions qui passent à la télé sur des chaînes pas publiques, privées, c'est vraiment un lavage de cerveau. Pas dans le sens où on nous fait oublier des trucs, mais où on rend notre cerveau disponible pour les pubs. Qui arrive après 40 fois. Et c'est au final.
Après ça, tu peux choisir, tu peux changer de chaîne quand il y a des publicités. T'es quand même pas non plus esclave.
On n'est pas esclave, mais je trouve c'est justement ça qui est terrible. On a le choix de changer, mais on se dit au final, bon, c'est 2 minutes. On peut attendre 2 minutes.
C'est ce qui amène la gratuité.
Voilà. Et
donc, faut pas. C'est sûr, il y a des pubs. De toute façon, il y a des pubs partout maintenant. Je pense que plus personne ne me reprendra. Les pubs sur Internet, maintenant, c'est omniprésent. Donc, on vit avec les pubs. Il y a 50 ans, nos grands-parents, je suis pas sûr qu'ils avaient autant de pubs. Donc voilà, c'est aussi une chance. Ça nous a amené une plus grande information. Ça nous a amené d'autres horizons qu'on ne pouvait pas forcément voir. Après, ça a amené d'autres problèmes comme les fake news. Mais
moi, j'ai une question personnelle. Est-ce que vous choisissez vos produits en fonction des publicités que vous avez vues? Par exemple, si vous
non.
voyez...
Non,
c'était yaourt, jamais.
Oui, voilà, je trouve ça étrange.
Il n'y a pas de pub pour Deepawali, donc pas encore.
Voilà. Non. Mais c'est pour ça que je trouve ça vraiment étrange. C'est
mais autant d'influence. Par contre, est-ce que quand tu vas dans un supermarché ou n'importe quoi, est-ce que quand tu vois un produit, par exemple Findus, t'as pas la petite musique qui te revient en tête?
Ah oui, c'est un tout petit peu.
C'est plus ça l'objectif.
Ouais.
L'inconscient aussi.
Après Findus, maintenant, ils sont...
Non, mais oui, non, quoi, parce que tout le monde a la musique Findus, mais...
C'est ça. Non, mais avec... Excusez-moi. Avec la vision de la société aussi. Si on voit qu'on a acheté une marque qui n'est pas bien représentée au niveau publicitaire... Peut-être qu'on se sentira de notre inconscient moins bien par rapport aux
autres, quoi. Moins,
à la vue des autres qui sont en train de visionner le caddie. C'est l'inconscient, c'est le but des publicités aussi, de se mettre en valeur et de décrier les autres. Hein.
Ouais, c'est intéressant. Antoine ?
Moi, je voulais juste en revenir sur ce que Tchedel a dit tout à l'heure. Je pense que, moi personnellement, je pense que les journalistes doivent retranscrire les médias avec la plus grande neutralité, justement. Parce que sur des chaînes publiques, les personnes, ils sont facilement... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont facilement influençables.
Ah oui,
et du coup, je pense pas que... Enfin, justement, je pense que c'est le métier du journaliste qui doit faire le vide dans sa tête et qui doit retranscrire les informations telles qu'il les voit. Et mais justement, sans donner un avis, sans mener...
Objectif.
Voilà. De manière
totalement... Après, voilà, si on veut des avis différents, des points de vue, autant inviter des invités politiques qui, eux, donneront le point de vue.
Non, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement... Je suis tout à fait d'accord, il faut retranscrire l'information telle qu'elle est, parce que je vois tellement, ça m'énerve d'entendre des journalistes qui donnent à chaque fois des jugements. Alors, ils ont une façon des fois de retranscrire l'information, c'est que du jugement, donc ils pourraient nous dire, je sais pas moi, le prix des tongs a augmenté de 1,45€, mais non, ils disent un nouveau coup bas de la part de l'industrie de la tongue. Tu vois, par exemple, non, mais cette façon de présenter les choses. Et je trouve ça malhonnête. Et donc, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, quand tu as un invité politique, je pense que c'est pas un argument de dire que si tu veux, bon, je pensais au cas Mélenchon qui disait Nathalie Saint-Cricq c'est une femme de droite, mais peut-être, mais pour moi c'est pas un argument de dire que Nathalie Saint-Cricq est de droite pour dire que ce qu'elle dit vaut rien, tu vois ce que je veux dire, parce que bon, voilà, il faut qu'elle pose les mêmes questions à tout le monde, mais en même temps, c'est pas une honte pour un intervieweur de dire, bah écoutez, moi je suis pas d'accord avec vous, et c'est ce que j'apprécie par exemple avec François Langlais, souvent il dit je suis pas d'accord avec vous, mais au moins on sait qu'il est pas d'accord, plutôt que, et donc je préfère quelqu'un qui dit directement je suis pas d'accord que quelqu'un qui va faire des titres, à mon avis, malhonnêtes du genre de ceux que je viens de vous présenter, et je vois que ça sur internet, quand j'ouvre ma page sur Google, sur Explorer, il n'y a que des trucs comme ça. Alors c'est un truc, je ne sais pas, moi l'autre jour c'était Macron mécontent de son salaire à l'Élysée, mais il n'a jamais dit qu'il était mécontent, il avait juste dit, il a juste dit qu'il gagnait moins à l'Élysée qu'à la banque avant, mais il n'a jamais dit qu'il était mécontent. Et je trouve que c'est cette façon d'interpréter buzz, comme ça, que je trouve malhonnête et pas correct.
Mais c'est encore une affaire d'argent, comme pour toujours.
C'est du clic.
Voilà.
Mais déjà, enfin, je sais pas si vous êtes au courant, mais Facebook, sans citer de marque, a décidé de
Twitter, Instagram,
a décidé de faire passer dans les fils d'actualité les contacts proches avant les médias. C'est-à-dire que ils veulent se désengager un maximum de l'information parce que on leur tape sur les doigts sur les fake news.
Ouais.
Du coup, ils essayent quand même de se rendre un peu plus neutre. Je trouve ça très honorable. Mais bon, c'est toujours des titres pour du clic. Tous les jours, on bat des records.
Les gens adhèrent, ça va continuer comme ça et ça va même s'empirer. Hein. Si les gens cliquent sur ce genre de titres racoleurs ou des choses comme ça, les gens, ils vont continuer, les entrepreneurs. Ouais. J'avais à dire. J'espère que c'était intéressant.
D'ailleurs, je crois qu'il y a Macron qui a annoncé qu'il voulait interdire les fake news, justement.
Oui.
Et à première vue, pendant les campagnes électorales, à première vue, ça peut paraître intéressant parce que ça permettrait de pas comme la campagne aux États-Unis, par exemple, où c'était racolage sur racolage. Et mais en fait, c'est assez désastreux, je pense. Hein. C'est la fin de la liberté des médias. N'importe quel média d'opinion, il pourra pas donner son opinion. Enfin, c'est peut-être un peu extrême, mais quand même.
Après, moi, je suis pas totalement d'accord parce que bon, certaines fake news sont en réalité certains avis qui se placent sous une couverture ironique. Alors moi, moi j'aime bien quand même quand on joue avec l'actualité en faisant une publicité volontairement ironique sur ce qui se passe en ce moment. Donc bon, à la limite, si on décide de les interdire, oui et non, alors pourquoi pas, parce que des fois, il y a certains qui le prennent au premier degré, qui ne comprennent pas, et puis certains qui, eux, ont la présence d'esprit de se dire c'est de l'ironie, ok, d'accord, ils font de l'ironie sur ce qui se passe en ce moment, c'est très bien, et ça permet de se détendre sur l'actualité qui est d'ailleurs montrée aux informations volontairement inquiétantes.
Oui, et d'ailleurs, s'il n'y avait pas tout ce qu'on on disait, les grandes chaînes comme FM, télé, sans les citer évidemment, mais si elles ne montraient pas tous ces reportages de gens en vacances, on critiquerait aussi les médias à constamment dire qu'ils sont pessimistes, qui nous montre que le côté de la société qui est noir, la dette, etc. Donc forcément, il faut bien une contrepartie. C'est ce que je pense. Hein. C'est aussi une liberté qu'avant, il n'y avait pas forcément la place. Il n'y avait pas autant de journaux qu'avant. Il n'y avait pas de facilité d'information. Tidel.
Alors, non, moi, c'est pour revenir aux fake news. Après, je trouve ça un peu... c'est vrai que je suis un peu partagé parce que d'un côté je me dis c'est pas normal que quelqu'un, c'est tellement malhonnête de jouer avec ça et de dire des choses complètement invraisemblables comme ça, mais en même temps je suis pas convaincu que ça ait un effet absolument énorme sur l'opinion, parce que il y a une étude, enfin je dis ça parce que j'ai lu un article l'autre jour qui montrait qu'en fait les gens qui ont voté pour Donald Trump ne se sont pas décidés à voter pour lui à cause des fake news, parce que tout simplement, les gens qui consomment des fake news pro-Trump, donc des fake news du genre Hillary Clinton malade, je sais pas quoi, ces gens-là, bah, c'est des gens qui de toute façon allaient déjà voter pour Donald Trump. C'est-à-dire que si tu vas voter pour Hillary Clinton, tu vas pas aller voir un site de fake news pro-Trump. Donc après, et puis même les fake news qui peuvent apparaître sur ton fil Google, par exemple, forcément, tu les vois parce que tu as fait des recherches avant. Si moi, j'ai recherché Donald Trump génie, forcément, je vais avoir des fake news qui vont me dire Donald Trump génie. Bon, par contre, ce qui me gêne, c'est avec YouTube, parce que je trouve que ça marche pas tout à fait pareil. Moi, sur Google, je me retrouve jamais avec des fake news en fil. Par contre, sur YouTube, dès que j'ouvre ma page d'accueil, j'ai plein de trucs de fake news. Donc, leur algorithme ne doit pas très bien fonctionner. Et je trouve que c'est embêtant, parce que du coup, il y a plein de gens qui ouvrent leur truc et qui voient ça, alors que bon, bah du coup, ils demandaient rien, quoi. Et puis voilà. Bon, après, je pense que les titres un peu tordus, entre guillemets, dont je parlais tout à l'heure, les façons de présenter les choses un peu malhonnêtes, et puis la façon de dire aussi des médias, entre guillemets, normaux, et puis la façon de ne jamais expliquer le contexte et de toujours arriver dans un truc. Souvent, ils parlent de choses très complexes sans expliquer aux gens, mais on n'est pas censé savoir ce que c'est que forcément que, quand ils parlent du budget, par exemple, on n'est pas censé savoir ce que c'est exactement tous les rouages. Donc, du coup, je trouve que cette façon de faire, c'est au moins aussi problématique que les fake news.
Oui, moi je pense qu'au bout d'un moment il faut pas arrêter la liberté d'expression. Il faut que le peuple aussi fasse la part des choses, et d'arrêter de se dire il risque pas de faire la part des choses, alors que si tout le monde est capable de voir ce qui est vrai et ce qui est faux, au bout d'un moment, et de faire son propre avis.
Après, le problème des médias, comme par exemple les médias télévisés, on est né avec. On a toujours grandi en regardant la télé, donc pour nous, on fait vraiment confiance à ce type de médias, donc on peut pas vraiment se dire, pas avoir le recul nécessaire pour se dire c'est peut-être pas totalement vrai, enfin il faut pas prendre tout comme c'est sorti, quoi. Vas-y Marie.
Après, le problème d'une loi comme ça, où ils veulent arrêter les fake news pendant les présidentielles, ou en Allemagne où il y a une amende pour les sites qui diffusent des fake news et qui les enlèvent pas, le problème c'est, enfin, qu'est-ce que c'est une fake news ? Parce que sur l'instant, ça peut être une fake news, mais au final, peut-être que plus tard, ce sera quelque chose de vrai. Je pense notamment à l'affaire Fillon. Fillon a tout de suite réagi, non, c'est faux, on essaye de me détruire, c'est une fake news. Peut-être que sur le moment, ça aurait été retiré, ça aurait pas été plus loin, et on n'aurait pas vu qu'il y avait un vrai problème en dessous.
Mais il y a une différence quand même, enfin, si je peux t'interrompre, oui. C'est que là c'était le Canard Enchaîné qui a dénoncé ça, ouais, si je me trompe pas. C'était un vrai journal de confiance. Là, les fake news,
c'est un média souvent comme un autre.
Oui, mais par exemple, quand tu vois dans ton fil d'actualité Facebook un truc d'Agoravox, bah tu peux beaucoup plus être sceptique. Forcément, c'est des citoyens, tu sais pas ce que c'est. Alors que tu vois ça, le Canard Enchaîné, puis ça a tout de suite été confirmé. Enfin.
Oui, non, mais c'est vrai que le Canard Enchaîné, il y a quand même
une. Oui, il y a une certaine confiance.
Après, des électeurs de Fillon admettront toujours le fait que le Canard Enchaîné ait voulu faire tomber Fillon.
Qui décide ce qu'est une fake news, quoi.
Et eux, pour le coup, ils ont dû aller consommer des fake news sur le Canard Enchaîné, qui devait dire, ou sur Juppé, ou sur je sais pas qui disait Canard Enchaîné, journal, attention. Voilà. Donc,
justement, eux, ils considèrent pas ça comme des fake news.
Oui.
Et il y a aussi des sites. Pardon ?
Ça dépend des sensibilités, les fake
news. Oui, c'est ça. Il y a aussi des sites. Des sites d'humour. Type, je pense au Gorafi.
Ouais, le Gorafi, oui.
C'est un peu.
Si on considère le Gorafi.
C'est un petit peu abusé, mais pour certains qui n'ont pas compris la.
Il y avait un homme politique, je ne sais plus, ou un journal. Non, c'était le Figaro, il me semble. Je sais plus. Qui avait repris le Gorafi. Bah non, du coup, c'est pas le Figaro. Qui avait repris le Gorafi sur le fait que Mélenchon avait un jet privé personnel. Et c'était vraiment justement un média de confiance qui avait repris ça. Donc ça pose des questions. Quand même.
Et puis pareil, avec l'histoire de Macron qui se lavait les mains après avoir serré la main des pauvres ou je sais pas quoi. Non, mais oui, c'était paru sur le Gorafi, cette histoire où il avait. Parce qu'il était allé en Guyane et puis je sais pas quoi, il avait touché des poissons et donc il avait pris des petites serviettes et tout ça. Et donc ils avaient passé un truc, enfin je sais pas trop, ils avaient fait un montage. Et après, ça s'était retrouvé dans des médias, entre guillemets, plus politisés. Enfin, pas forcément traditionnels ou sérieux, mais dans des médias plus. plus politisée, alors que c'était pas du tout une information politique, oui. C'était purement de la déconne, quoi. Voilà.
Mais ça, c'est vraiment d'incompétence.
Bah non, c'est pas forcément de l'incompétence, ça peut être des gens. Non, mais si tu veux, quand t'as des pages pro-Le Pen qui se mettent à retweeter ça et que les gens savent pas d'où ça vient, aussi bien ils copy-collent l'article sur un truc où il y a pas marqué le Gorafi, et puis voilà, et puis du coup, c'est un peu ça le souci, quoi, c'est la diffusion. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être essayer de limiter ça ou de. Si tu veux, de regarder les fake news avec le nombre de retweets ou de partages sur Facebook, par exemple, je ne sais pas moi, dire qu'à partir de plus de 5000 partages, on va quand même un peu regarder ce que c'est. Parce que du coup, tu vois, bon, il y a eu... voilà.
Après, il y a une importance. Tu disais, Baptiste, tout à l'heure, la télévision, on y fait confiance parce qu'on la regarde depuis qu'on est né. Mais YouTube, on peut quasiment dire, on regarde YouTube depuis qu'on a 7-8 ans, donc depuis qu'on peut réfléchir de façon... bref, eh bien... Il y a quand même, on ne fait pas confiance à YouTube.
Bah en fait, c'est différent parce que je trouve que sur YouTube, il y a vraiment un côté personnel. Chacun poste les vidéos qu'il
veut. C'est totalement libre.
Voilà, aussi. C'est beaucoup plus libre que la télévision. La télévision, chaque chaîne, il y a de l'argent derrière. C'est sérieux. Quoi.
Oui, c'est sérieux. Et c'est pas parce qu'on la regarde depuis qu'on est né qu'on lui fait confiance.
Ah oui, d'accord. Oui, tu voulais rectifier ce que je disais.
Mais
après, la télévision, c'est plus vieux que YouTube. Nous, on est né, on est jeune, c'est pour ça. Mais nos parents, qui sont jeunes aussi, eux, ils n'ont pas connu YouTube, ils ont connu la télévision. Donc, il y a cette histoire de plus de 70 ans qui fait qu'on a plus confiance en la télévision que dans YouTube, par exemple.
Après, il y a un média, c'est Wikipédia. Je trouve que c'est assez net, pour le coup. Est-ce que...
ah oui.
Si quelqu'un... Et pourtant, c'est libre par rapport à... YouTube, oui, c'est libre.
C'est vrai qu'on a tendance à avoir beaucoup confiance en Wikipédia, mais en général, c'est totalement libre en fait.
C'est quasiment sûr parce que chaque fois que tu cites quelque chose dans Wikipédia, que tu mets une ligne, il faut que tu le montres avec des liens, des sources, donc forcément ça apporte une certaine sûreté, donc c'est intéressant. Et
je trouve ça encore différent parce que Wikipédia c'est une encyclopédie, c'est un objectif. Oui, alors que YouTube, c'est pas vraiment un objectif d'être
pédagogique,
d'être dans la politique et tout ça, c'est vraiment beaucoup plus large, YouTube.
Et puis surtout, Wikipédia, c'est libre, mais en même temps, la page Wikipédia de Marine Le Pen, aussi bien, elle est faite par des conseillers communication du Front National aussi. Donc bon, parce qu'après,
c'est sûr, en fait.
Voilà, donc après, c'est pas forcément évident, mais ça peut passer par des phrases un peu tournées d'une certaine manière, des choses comme ça. Voilà.
Ça, j'avais déjà regardé.
C'est de l'inconscient.
Ouais, c'est délicat, enfin, je trouve. En tout cas, ce serait très fin. Ce serait fait de manière
ça dépend.
Fine,
ouais,
mais
ça
moi,
dépend.
J'en ai jamais vu.
Non, c'est vrai qu'il y a pas mal de pages Wikipédia que je trouve. Enfin bon, je vais pas voir tous les jours des pages Wikipédia de tous les. J'ai trop lire, mais quand je vais lire, non mais c'est vrai que souvent quand je vais lire des pages Wikipédia, ils parlent aussi des choses pas forcément glorieuses. Mais il y en a où tu te demandes quand même un peu par qui ça a été.
Parce qu'au final, la neutralité. Tel y en a qui vont critiquer Marine Le Pen, tel il y en a qui vont la glorifier. Donc au final, la neutralité, on peut aujourd'hui avoir la chance d'entendre les deux sons de cloche. Donc est-ce que c'est nécessaire d'avoir une grande neutralité? Je sais pas, parce que on a la chance d'avoir des journalistes de tous les bords. Après, ce qui était intéressant, c'était l'indépendance, plus d'indépendance, et pas que ça se retrouve, que les médias se retrouvent, comme on disait au début, dans les mains de certaines personnes. Parce que ça, c'était là où était le danger. C'était pouvoir diriger plusieurs journaux. Enfin, Drahi, Niel, tout cela, ils ont plusieurs journaux sous leurs bras. Donc,
Mais après, pour le journaliste et sa neutralité, je pense que ce serait intéressant que ce soit affirmé avant, enfin, pas avant l'émission, mais je veux dire au début, que les choses soient bien claires pour que les gens comprennent et ne se disent pas que ce journaliste est neutre et pourtant il démonte les arguments de cet homme politique, par exemple. Et donc, ça pourrait vraiment influencer un vote.
Après, c'est quand même rare dans la période électorale.
Mais tu regardes l'émission politique sur France 2, par exemple, c'est flagrant. Je trouve vraiment que c'est l'exemple le plus flagrant de journalistes qui veulent décrédibiliser. Pour moi, l'émission politique, j'ai vraiment pas
mais
c'est
tous. Mais c'est tous qui décrédibilisent.
Oui. C'est pas que Mélenchon.
Ah oui, non. Ah oui, voilà. Non, c'est vrai.
Donc
oui,
voilà, c'est une certaine neutralité.
Je trouve ça dommage. Ça pollue le débat public. Oui.
Moi, j'aime pas cette manière de faire, mais enfin, à mon avis, on peut pas dire qu'il soit pas équitable avec tout le monde, parce que tout le monde y est passé dans les griffes de Léa Salamé.
C'est comme Jean-Jacques Bourdin, quoi. Tout le monde se fait taper dessus par.
Enfin, Jean-Jacques Bourdin, lui, par contre, il invite souvent. Il invite quand même plus souvent, c'est vrai que
c'est député. Député La République En Marche.
Il invite plus souvent des députés Front National. Enfin, avant, bon, maintenant, oui, il y avant. Oui, avant. Alors maintenant, je sais pas, je sais pas pourquoi. Mais après, bon, j'avoue que je regarde pas Bourdin tous les jours, mais c'est vrai qu'il a été souvent connu pour inviter souvent des gens du Front National. Florian Philippot et Jean-Jacques Bourdin, c'était le couple du tonnerre. Hein. Ils étaient tout le temps ensemble en plateau. Bon, alors Jean-Jacques Bourdin lui posait peut-être des questions très, si tu veux, très pointues, mais il n'empêche que c'était quand même Florian Philippot et pas quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que c'était lui qui avait la parole. Enfin,
ouais,
si les questions sont dures.
Il y a aussi Philippe Poutou qui s'est fait.
Non, Jérémy.
Philippe Poutou, pendant la campagne, qui s'était fait inviter chez On n'est pas couché, je crois, et qui avait trouvé que c'était. En gros, qui se moquait de lui et qui le trouvait à sa candidature pas crédible du tout par rapport au candidat puissant.
Quand tu écoutes Christine Ago, enfin, excuse-moi, mais. Ango, oui, ouais. Ouais, en plus. Et ben. Elle tape sur tout le monde, donc peu importe la personne. Donc Poutou, il fallait qu'il regarde la télé avant pour voir. J'ai rien contre Philippe Poutou, il est très intéressant politiquement, donc, mais qu'il regardait. Enfin, c'est aussi le but de l'émission, on n'est pas couché.
Non, mais c'est vrai que là, on peut peut-être penser qu'ils l'ont moins pris au sérieux que certains autres candidats qui se font aussi taper dessus, mais qui prennent quand même plus de sérieux. Là, on l'a peu pris au sérieux, je trouve, sur l'ensemble des questions posées, etc. Mais c'était pas Ango à l'époque, c'était Burgraff. Vanessa Burgraff, voilà. Jérémy.
Avant de finir sur ce sujet, il y a très récemment, je crois que c'est la semaine dernière, il y a la chaîne, une nouvelle chaîne de télé Russia Today qui a été ouverte. Et c'est une chaîne de télé qui est directement contrôlée par le Kremlin. En fait, c'est de la propagande carrément pro-russe. Et du coup, il y en a que ça choque, il y en a d'autres qui trouvent ça totalement acceptable. Moi, ça me choque pas particulièrement dans le sens où elle est très contrôlée par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, il paraîtrait.
Mais après, tant que c'est assumé, je trouve, tant que c'est assumé et que c'est dit que c'est contrôlé par Kremlin, etc., les gens savent en regardant cette chaîne que c'est pas de la neutralité. Alors que quand on regarde,
ils peuvent tomber dessus par hasard.
On s'attend quand même à quelque chose de relativement neutre et public.
Parce que, pardon, mais c'est vrai que sur YouTube, pour en revenir à ma page d'accueil YouTube, alors que je regarde pas souvent des vidéos pro-Poutine, enfin, j'en regarde pas du tout, puisque ni pro-Trump, mais bon, voilà, je me retrouve souvent avec des publications de Russia Today sur ma page d'accueil, alors que j'ai rien demandé. Et c'est vrai qu'en plus, parce qu'il y a une autre chaîne russe qui s'appelle Sputnik, et qui est un peu dans le même genre Kremlin. Mais Spoutnik, à la limite, bon, tu te doutes que c'est un truc. Tu te doutes que c'est un truc russe. Alors que RT, moi, je croyais que c'était. En fait, je confonds.
RT France.
Oui, mais c'est ça. RT France, tu dis, c'est quoi? C'est une agence de presse. En fait, moi, au début, je croyais. J'ai jamais rien regardé de RT, mais je croyais que c'était une agence de presse, genre l'AFP, par exemple, ou Reuters. Parce qu'en fait, je croyais que RT, c'était pour Reuters. Donc, comme il n'y a pas marqué Russia Today, tu vois pas que c'est Russie aujourd'hui, quoi. Donc, bon, forcément. Et RT, bon, c'est vrai que souvent. Dans leur façon de. Parce qu'après, on pourrait dire. Il y a des gens qui argumentent en disant qu'après tout, la France a bien France 24, qui est une agence avec. Bon, je regarde souvent France 24, c'est souvent plutôt pro-français, mais en même temps, bon.
Démocratie, quoi.
Oui, mais voilà. Mais en même temps, je pense pas qu'ils utilisent des fausses informations, si tu veux. Ouais. Alors que RT, je pense qu'il y a des fois où ils ont recours à des. Notamment, ils parlaient à un moment d'émeutes à Paris, j'en ai jamais entendu parler. Hein. Enfin, non, mais voilà. Donc. Voilà.
Mais après, tes suggestions YouTube dépendent très souvent des recherches que tu as faites. Donc, tu n'as peut-être pas regardé Russia Today.
Fait beaucoup de recherches.
Ou alors, quelqu'un utilise ton autre. Quelqu'un utilise son.
Non, mais écoute, je sais pas. Mais enfin, bon, ça fait quelques temps que j'en ai plus. Donc, du coup, voilà. Mais je regarde rien de ce genre.
C'est les tendances YouTube, en tout cas, qui sont polluées, moi, je trouve.
Oui, c'est parce qu'on se passe
à la télé. Tout ce qui se passe à la télé, ça se retrouve maintenant sur YouTube. Et ça, c'était pas le but de YouTube à l'origine.
Oui, c'est vrai qu'Internet se fait un peu empiéter par.
On n'a pas trop parlé de la télé-réalité, est-ce que vous voulez en dire un mot? Parce qu'au final, on n'est pas.
Au début de l'émission, j'ai vu que vous n'étiez pas très motivé par la télé-réalité, mais je comprends. On voulait surtout.
Qui regarde la télé-réalité?
Oui, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un autour de la table regarde la télé-réalité? Après, vous pouvez
en être fier. Adèle se cache.
Adèle n'est pas vraiment dans l'émission, mais c'est vrai que.
Plutôt spectatrice aujourd'hui.
Ah, c'est Adèle?
Tu regardes quoi?
Non, j'ai regardé, c'était complètement nul, donc j'ai arrêté. J'ai regardé deux épisodes de The Apprentice quand ils avaient commencé à le faire en France. C'était un truc, oui. Et ça a duré une saison parce que ça. Et d'ailleurs, le monsieur maintenant qui présentait ça est député En Marche. Donc, comme quoi, bon, ça aurait pu être.
Moi, j'avoue avoir regardé avant.
Ah, oui, moi aussi, non, c'est vrai que j'ai regardé dans ma jeunesse.
Voilà, entre 12 et 14 ans à peu près, mais. Non, mais. Voilà.
Personnellement, j'ai regardé la télé-réalité, mais je pense qu'il faut la regarder quand même avec une certaine intelligence et avec un certain recul. Il ne faut pas la regarder juste pour regarder, parce que je pense qu'on est dans quelque chose de totalement contradictoire, par exemple, où j'ai l'impression que la bêtise est récompensée.
Le buzz, ouais.
Ouais, le buzz et le fait d'être bête. Enfin, par exemple, quand des filles qui pensent qu'il y a deux lunes,
oui, voilà.
Je pense qu'elles pensent pas réellement,
non,
ça.
Non, mais elles le savent.
C'est joué.
Mais
c'est...
du coup, je pense que là, c'est là qu'il est le côté très, très dangereux pour les enfants qui regardent.
Ouais. Elles se donnent des rôles.
Elles donnent des rôles et elles ont envie de devenir ce qu'elles voient, justement. C'est la seule image.
Bon, après, la plupart des personnes qui regardent les téléréalités, j'ai vu que c'était entre les 15 et 25 ans, peu près. Je pense qu'à partir de 15 ans, on peut se faire une propre opinion quand même.
Ça, c'est pas sûr, c'est honnêtement. Pas toujours le cas. Je pense qu'on est quand même encore facilement influençable à ce stade-là.
Il faut regarder d'autres médias déjà pour pouvoir faire
plus.
Qui sont pour pouvoir comparer, quoi.
Et à 15 ans, on n'est pas forcément intéressé.
Oui, surtout que c'est bien plus grave que de simples bêtises.
Parfois, il y a drogue.
Voilà, on a révélé des trafics de drogue, de la prostitution parmi les candidates de télé-réalité. Et les jeunes prennent exemple sur ça, sur ça, et
c'est dangereux, c'est sûr. Et encore en France, on n'est pas les moins bien garnis. Enfin, il y a quand même bien pire ailleurs.
Oui, il y a bien pire ailleurs.
Après, c'est la télé-réalité, comme je sais pas moi, les ch'tis à Cancun ou je sais pas quoi.
Non, c'est le pire exemple.
Mykonos.
Antoine Carrière, finalement.
Ça donne une image totalement débile des gens, puisqu'ils font des remarques débiles. Mais ça donne surtout un canon de beauté qui est, c'est un avis personnel, mais trop superficiel.
Oui, qui est faussé. Ouais.
Totalement faussé.
Qui est totalement faussé. Et
une réalité entière qui est faussée.
Voilà. Vu qu'on se met dans leur réalité, on s'adapte à leur canon de beauté.
La télé-réalité n'a peut-être pas autant d'impact pour changer les modèles dans la société. Les télé-réalités quand même qui portent pas très bien son nom, hein, pour le coup.
C'est vrai.
Non, mais moi je voulais faire part de ma propre expérience que vous avez dit, puisque vous avez dit il faut comparer avec d'autres télé-réalités, etc. Donc bon, du coup moi j'ai comparé The Apprentice France avec The Apprentice USA, qui était, donc j'ai regardé un épisode de The Apprentice aux États-Unis et c'était présenté par Donald Trump. Bon, donc oui. Effectivement, j'ai regardé qu'un épisode parce que franchement c'était en fait The Apprentice, c'est une émission où les gens sont censés monter des entreprises et alors à la fin le patron est sur la table, il leur dit oui, vous êtes viré, ça n'a pas marché, etc. Bon, mais je trouve que effectivement, c'est pour revenir à cette idée de valorisation de la bêtise. C'était une vision de l'entreprise qui était complètement. Vous avez Donald Trump qui est assis sur son trône. Non, mais c'était vraiment ça, hein, sur une grande table, et puis il y a les gens en face. Alors,
oui,
tout le monde se ressemble, et en plus tout le monde se ressemble. C'est que des types en cravate, des femmes avec des talons, etc. Bon. Donc c'est une réalité qui est faussée et c'est vrai qu'il y a là aussi une forme de promotion dans ces jeux notamment, de promotion de valeurs entre guillemets qui sont pas forcément très recommandables. Voilà, dans ce jeu, notamment dans cette émission, plus t'étais gentil et sympathique et innovant et créatif, moins tu réussis. Donc bon, c'est un peu surtout avec Donald Trump.
Oui, c'est original. Tu voulais parler
de... Oui, c'est surtout en temps qu'il fausse la réalité, c'est vrai, mais c'est quand on en voit des télé-réalités, je me demande comment est-ce qu'il même des gens qui sont là pour même jouer à un jeu, parce que c'est pas possible d'être aussi idiot des fois quand même, parce que il y a certaines réflexions qu'on voit dans les télé-réalités, je me dis, mais un être humain, même le plus débile possible, il dirait jamais ça, et pourtant ils le disent. Et c'est pour ça que je me dis, même s'ils jouent un rôle, c'est complètement débile de faire jouer des rôles pareils à des gens qui pourtant peuvent avoir de grandes qualités, qui peuvent avoir même un avenir dans la société. Ouais. C'est complètement stupide.
Tu vois, le buzz de Nabila, un peu toutes les personnes de télé-réalité essaient de copier ce type de buzz. C'est pour ça qu'ils sortent des choses pareilles, quoi.
Bah ouais, mais c'est complètement stupide. C'est pas pour un buzz d'une célébrité qui a fait parler d'elle pendant... qui fait encore parler d'elle aujourd'hui. C'est pas inventer votre propre buzz, quoi.
C'est vrai. On a fini le sujet sur les médias. On va passer
moi,
aux questions.
Les questions.
Questions tour de table. On va chacun donner notre avis. On va commencer par la première question. Pour ou contre la limitation de vitesse à 80 km/h ?
Alors, Tiedel,
au lieu de 80 km/h
sur les
routes. Tiedel,
je te laisse commencer parce que c'est un sujet qui te tient à cœur. Comment ça ?
Oui, non, ça me tient à cœur parce que je suis en train d'apprendre à conduire et je peux déjà pas tenir une vitesse de 90 km/h. Donc
oui,
non.
Moi aussi, je confirme.
Non, mais bon, je trouve que je pense que c'est honnêtement pas forcément une bonne idée. Pour deux raisons. D'abord parce que je pense que les résultats sont contestables en matière de sécurité routière. Il y a eu des expériences en Suède et au Danemark, et l'une en Suède a effectivement montré que réduire, ça diminuait le nombre de morts, mais l'autre a montré qu'au contraire, il augmentait parce qu'il y avait tout un tas d'autres facteurs qui étaient l'alcool, qui étaient un peu aussi des imprévisibles. Il y a un moment où on ne peut pas non plus avoir zéro mort sur la route. Donc le jour on réduit la vitesse à 80 km/h. Après, le lendemain, il y en aura peut-être 300 de plus qui vont prendre deux verres de vodka avant de prendre le volant. Et puis voilà, bon, donc il y aura 300 morts de plus. Donc, d'abord, je pense que les résultats en matière de sécurité routière sont contestables. Et ensuite, je trouve que sur la forme, c'est un peu du pain béni pour les gens qui vont dire oui, c'est encore la ruralité qui va trinquer, donc c'est un peu du pain béni pour le FN, quoi, qui va en faire son cheval de bataille pendant deux semaines ou trois semaines en nous bassinant avec les histoires que c'est encore les ruraux qui sont touchés parce qu'on en a que contre eux, etc. Donc contre pour ces deux raisons.
C'est intéressant.
Antoine,
à toi. T'es pas obligé d'autant justifier. Hein, tu peux
oui ou non,
c'est hyper intéressant en tout cas.
Ben moi je trouve ça un peu délicat comme sujet parce qu'on se demande une fois, enfin on se demande si c'est justement pour justement augmenter les caisses de l'État, pour amplifier les caisses de l'État, parce que
c'est vrai qu'il y a aussi ça, ouais.
Justement là, enfin les personnes, le temps qu'ils s'habituent et qui leur enlever leurs habitudes, quoi, de rouler plus vite, est-ce que ça va les banaliser plus, est-ce que d'autres PV vont être installés, du coup ça veut dire ça.
C'est vrai que ça doit être délicat de s'habituer à une nouvelle limitation de vitesse. Ouais. Alyosha,
Je conduis pas et ça risque de pas arriver très vite. Donc réellement, je peux pas vraiment dire. Bon, même si je suis pour la sécurité sur les routes et que j'imagine que même si on limite à 80, il y a toujours des gens qui vont se dire « Allez, fuck le système, je vais à 90 ». Bon, voilà. Hein. Ah mais non, mais je savais pas cette limitation de vitesse, alors moi j'y suis allé, hein, j'ai pas regardé le panneau comme d'habitude, ça va, je sais que c'est à 90.
Oui, c'est vrai qu'il peut.
Bon, voilà.
Ouais, ça prend mesure le 1er juillet.
Le 1er juillet.
Bah moi contre, parce que de toute façon les fous du volant, les fous de la pédale, du levier de vitesse, ils vont pas changer, ils veulent rouler à 150 entre Saillant et Cré, ils rouleront à 150, donc
oui, c'est clair.
Ça changera pas grand chose et au final ça sera le contribuable qui payera sûrement le plus.
Jérémy ?
Moi je suis assez partagé en fait. C'est vrai que ça peut être assez c'est assez compréhensible le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui râlent contre cette mesure. Et encore plus compréhensible, par exemple, les livreurs, je pense, qui vont perdre plusieurs... qui vont devoir réduire leur tournée parce qu'ils seront moins efficaces. Après, c'est un objectif du gouvernement de faire passer le nombre de morts sur les routes annuelles en dessous de la barre des 2000. Du coup, ils penseraient qu'avec ce genre de mesures, ça contribuerait. Est-ce que ce serait pas plus efficace des mesures type des radars qui sont pour les conducteurs c'est beaucoup plus préventif.
Pardon. Moi je suis un peu partagé aussi parce que je suis pour, parce que pas seulement pour la sécurité routière mais aussi pour l'environnement, parce que réduire sa vitesse c'est aussi éviter les bouchons, là je parle pas à l'échelle d'Iwaz mais d'ailleurs, ça s'arrête les bouchons, on consomme moins, donc niveau gaz à effet de serre, c'est ridicule à l'échelle d'une personne, mais pour tout le monde, c'est bien. Et ensuite, par contre, ce que je ne trouve pas bien, c'est que ça coûte cher pour au final pas grand chose, et le Premier ministre va encore se mettre la plupart des Français à dos pour. Pour pas grand chose.
Il a déclaré « Je suis prêt à être impopulaire si je peux sauver des vies. »
Voilà, il va être impopulaire pour une petite réforme de rien du tout. Voilà.
Moi, je suis un peu partagée aussi, parce que bon, c'est-à-dire que voilà, sur les grands axes, je pense que c'est pas du tout une bonne idée. Ça peut limite être dangereux, je pense.
Oui, c'est vrai que dans certains cas, ça peut être dangereux de rouler trop lentement.
Ouais. Et après, par contre, sur les axes, enfin sur les petits axes, je pense que c'est plutôt une bonne idée, parce que une bonne idée entre guillemets, hein, parce que si on a envie de rouler à 40 km/h, on pourra le faire aussi. Mais enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Moi, je suis plutôt contre, parce que j'ai vu dans un pays, je sais plus, Alexandre, je pense que tu pourrais m'aider. Dans quel pays ils augmentent
C'était au Danemark, ils ont augmenté de 90 à 100 sur 7 heures. Sur 7 heures,
ils ont augmenté les limitations de vitesse et ça a fait moins de morts.
Oui, ce qui était intéressant.
Stimuler quoi. Ouais.
Non, mais ce qui était.
Et on peut aller plus vite, c'est bon, allez, on y va.
Ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient dépensé l'équivalent, c'est pas l'euro au Danemark, si je ne me trompe pas, c'est 5000 euros par kilomètre pour améliorer la route. Donc c'était sur la sécurité, sur les bandes, sur les côtés, les barrières, les glissières de sécurité, et c'était ce qui avait permis aussi de faire baisser la mortalité. Donc okay. Au final, est-ce que c'est pas un investissement qu'il faudrait faire?
On finit sur une dernière question.
Ouais, et puis est-ce qu'il y a des coups de cœur, coups de gueule?
Ouais, quelqu'un a un coup de cœur, coup de gueule? Bah après, il faut vraiment que ce soit voulu et ok. Bon, il y en a pas, c'est pas grave. Est-ce que vous êtes plutôt comment dire?
Bon, bah, il y a Marius
le rapprochement.
Et Jérémy.
Oui, c'est vrai, ok.
Internat.
Ah oui, d'accord. Au revoir, Marius. Au revoir, Jérémy. Merci beaucoup.
Au revoir,
Antoine aussi.
Au revoir.
Et Antoine aussi.
Salut, salut. À la prochaine.
Salut.
Il y a des bisous qui se perdent dans le studio. Est-ce que vous êtes plutôt heureux du rapprochement entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, ou vous voyez ça plutôt d'un mauvais œil, ce rapprochement entre la Corée du Nord et la Corée du Sud très récent? Depuis quelques semaines. Est-ce que quelqu'un veut donner son point?
C'est idéal, on recommence le tour de ta part. C'est bien, je pense.
T'es inspiré.
Oui, voilà, c'est très bien, c'est super. Voilà. Oui,
parce que certains voient ça d'un mauvais œil. Ils disent que ça peut être dangereux.
Non, mais bon, voilà, si le Kim Jong-un effectivement décide de se calmer un peu, ben voilà, tant mieux. À la limite, moi je préfère les rapprochements qu'une guerre nucléaire. Donc
mais après, ça peut être un rapprochement plutôt vicieux pour peut-être faire passer les États-Unis pour justement. Enfin, pour décrédibiliser
Trump
les États-Unis.
Pour un fou.
Voilà, c'est
oui,
ça.
Mais enfin, à mon avis, il n'a pas besoin de ça pour se décrédibiliser. Hein.
Oui,
c'est pas vraiment. Voilà.
C'est vrai qu'il est pas mal tout seul. Du coup, est-ce quelqu'un, Alex?
Non, je suis content du rapprochement, c'est toujours
mieux. Oui, moi aussi, je suis heureux, mais c'est vrai que j'avais...
Que l'isolement, l'isolement de la Corée du Nord faisait plus peur. Après, un rapprochement avec la Corée du Sud, est-ce que c'est forcément sincère? Je ne pense pas.
Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Faudra voir ça au JO, ça va être intéressant.
C'est ce qui est intéressant, et ce qui est intéressant de voir que c'est encore le sport qui réunit.
Oui,
c'est vrai.
C'est pas mal.
J'ai entendu la Chine et les États-Unis, c'est vrai.
Souligner ça. Voilà.
Monsieur Darmon, dans ses cours, qui nous avait souvent dit que le sport était justement le moyen pour rapprocher... Les des pays. Nations en guerre ou des nations en conflit.
C'est vrai. Partager une passion commune.
Voilà. Pas de coup de cœur, pas de coup de gueule.
Pas vraiment.
Coup de gueule, petit coup de gueule. C'était sur l'Égypte qui voudrait interdire, qui voudrait faire une loi pour sanctionner les athées. Les gens qui sont athées. C'est comme l'Arabie Saoudite, hein, où c'est déjà interdit. J'avais entendu parler de ça. C'est plus visé pour les homosexuels qui sont du coup qui ne peuvent pas avoir
de religion.
En tout cas musulmane, hein, si je me trompe pas, c'est pas forcément ce qui est très très autorisé dans avec la religion.
Je crois pas qu'il y ait de religion qui accepte l'homosexualité. Enfin,
voilà monothéiste actuel. Voilà, en tout cas voilà. Donc c'est pour ça. Ça viserait surtout sous cette loi un peu extrémiste et surtout pour faire aux homosexuels. C'était petit coup de gueule. Après, est-ce que ça va se... Ça n'a pas été très médiatisé, mais j'en ai entendu parler.
Oui, c'est vrai.
C'est pas encore fait, mais c'est sur la bonne voie, parce qu'en Égypte, en ce moment, c'est pas forcément très, très stable et très, très modéré. Donc voilà.
Okay.
Bon.
Bon, on vous remercie pour cette émission, de nous avoir écoutés. Est-ce qu'il faut encore meubler pendant une minute?
Non, je peux couper le direct quand tu veux.
Chouette,
merci beaucoup.
Prochaine émission,
je sais pas trop.
Début février, normalement.
Ouais, si on en fait une avant les vacances, pourquoi pas. Ouais.
Après, il faudrait qu'on arrive à avoir un rythme quand même assez...
c'est régulier pour
assez régulier.
Pour que vous puissiez en profiter, et puis...
Voilà. Et bah merci beaucoup, merci à tous
d'être venus. Merci à, vous, ça fait merci super à plaisir. Vous de m'avoir laissé rentrer. Bah,
au plaisir. Gros passe quand ah, tu veux.
Quand même.
Puis merci à ceux qui nous écoutent à Paris.
Clairement.
On sait qu'on est écoutés là-haut.
Bonne soirée à tous, merci.
Au revoir.
Au revoir.